Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h05. On y revient au Mastic. On est dans le Super Moscato Show. Comme tous les jours, on est là de 15h à 18h. Vous le savez parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On est avec Sarah Piposki, Denis Charvet, The Flower, Fantôme, oui. Adrien Gouem.
Oui.
Pierrot, dans une demi-heure, claque à ce programme.
Alors, dans une demi-heure, on a un énorme programme. Je ne sais pas si on va réussir à tout faire, mais on a la compo d'équipe de Décathlon CMA CGM pour le tour. Autour de Paul Sexas.
Il est dedans, Sexas ?
Bien sûr. On a des infos sur l'avenir d'Antoine Comboiré. On va présenter aussi l'affiche des 16e de finale entre le Maroc et les Pays-Bas. Léon Marchand est forfait au championnat de France de natation. Ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Ouais, bon, ok.
Ça fait quoi?
Allez, pardon.
Mais quoi? Ça fait
beaucoup
de.
Ça te touche, non? Beaucoup d'actu, quand même. Léon Marchand forfait, ça t'inquiète pas, toi.
Mais quand t'as dit Marchand, j'ai mis un moment parce que je croyais que c'était le petit Marchand, le talonneur.
Julien Marchand.
Ah, Julien Marchand.
Il est en mode rugby, Vincent.
Julien Marchand.
Talonneur, la confrérie.
C'est vrai que le stage Toulousain, quand ils sortent leur talonneur, c'est Julien Marchand qui rentre.
Oui, j'ai
peur, non?
Ah ouais.
Qui est le titulaire de l'équipe de France. Et quand t'as Thomas Ramos qui revient dans le groupe, c'est Capozzo qui joue pas.
Ah non, parce qu'en plus, quand t'as Thomas Ramos qui rentre, bon arrière et en plus très bon arbitre, parce qu'en plus il reprend le.
Oui, il fait les deux en fait.
Juste avant de vous donner le programme, on va à Wimbledon prendre des nouvelles du numéro 1 mondial Yannick Sinner avec Eric Salio.
Un set partout, donc entre Yannick Sinner et Miomir Kecmanovic, le Serbe avait pris le premier. Réaction immédiate de l'Italien, 6-3, il y a 2-1 pour le Serbe au troisième. Arthur Hinatagé sur le coup, il est au tie-break face à un qualifié anglais. Puis, on a une pensée pour les Anglais, puisque Emma Raducanu, forfait hier soir, et à quelques minutes, Jack Draper, forfait également.
Oh. Rinderknecht qui joue justement face à un qualifié anglais. Hein. D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit au tour de Vincent Moscato de nous donner le nom, qui n'a toujours pas réussi à sortir correctement, Eric, de ce jeune joueur français.
Arthur.
Rinderknecht.
Ouais, c'est pas mal. Il y a un A qui sert à rien, mais c'est pas mal.
C'est pas mal.
Denis.
Rinderknecht.
Non.
Ah oui.
Non, pas du tout.
C'est pas... Vincent est meilleur là.
Non, mais ça, c'est Rinderknecht qui allume une mèche. Ouais, il allume une mèche.
Non, pas du tout. Alors, le programme. Donc, Montpellier, peut-il avoir des regrets, Vincent? Vincent règle de problème, j'ai entendu Vincent rigoler, ça m'a fait rire. À 17h, la Coupe du Monde. Croyez-vous encore au Brésil? Le Brésil qui joue à 19h face au Japon. Journal moyen, deuxième édition à 16h45, Adrien.
Plein de saucisses, un clash cessieux, Charvet dans les grandes gueules du sport. C'était un peu chaud, une sorte de tension. Et puis, je vais remercier le journal La Voix du Nord, la presse quotidienne régionale, La Voix du Nord, qui a retrouvé quelqu'un que tous les auditeurs du Moscato Show connaissent, qui s'appelle Geoffrey François. Ah. Geoffrey François, ça me t'a dit quelque chose?
J'ai compris.
Tu as vu le papier
passer? Je sais pas qui c'est, mais j'ai compris.
J'ai une seule chose à vous dire. Ils l'ont retrouvé presque 10 ans après.
C'est Giroud.
Yes, he's a Giroud.
Yes.
Il existe toujours, ce monsieur. Ils l'ont retrouvé et ils ont publié un portrait de lui. Voilà, et il est content.
Avant de démarrer sur la finale, je vous rappelle que la prime de match RMC est de 77 500 euros et que vous pouvez gagner cette somme si vous êtes simplement capable de nous la donner et très exactement au moment où on va vous appeler, parce qu'on va peut-être vous appeler tout à l'heure. Les inscriptions sont ouvertes, ça peut tomber à tout moment dans le Super Moscato Show. Écoutez bien RMC. Si on vous appelle, il faut donner le montant de 77 500 euros pour gagner la prime de match. Et tout de suite, mais qui Stephen Brun a-t-il interviewé après cette finale?
C'est une dynastie 2023, 2024, 2025, 2026. Le Stade Toulousain bat Montpellier 28-20.
Salut Lenny.
Bonjour.
Lenny, comment vas-tu?
Aïe. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas une groupe à péter le boulard.
Ouais. Félicitations, mon grand.
Moi, je vois le trou. J'ai mis le fou et puis je suis extérieur. Hein. Je veux dire, on va pas faire un autre. Hein.
D'accord, très bien.
Un moment exceptionnel du rugby français.
On va Lenny au téléphone là.
Bonjour Julien.
Comme les deux droits.
Ah ouais, je me disais, drôle de lire. C'est qui au téléphone?
Je m'appelle Vincent Moscato, j'ai 26 ans, je suis cafetier et talonneur de l'équipe de Bec.
C'est pas Lenny.
Tu racontes à la débile, con. Moscato, il va te régler le problème. Bon,
bravo Suzanne. Les prods de Suzanne à podcaster, vous le savez, et c'est gratuit. Hein, sur rmc.fr.
J'ai 26 ans, je suis cafetier.
Cafetier, oui,
mais c'était vrai?
Ah oui, c'était vrai, oui.
Je savais pas qu'il avait été cafetier.
Tu prêté à cette génération.
Non, j'ai prêté Craftier.
Toute une série d'emplois fictifs.
Je faisais la pub. Je faisais la pub pour mon bar, le pub Vincent, parce que j'avais un bar où j'ai gagné beaucoup d'argent d'ailleurs dedans. Et donc.
Mais c'est ce que là, j'étais en train de réfléchir. Je voyais Vincent avec le petit tablier en train de servir des cafés.
C'était un peu barista. Quand tu montes dans le TGV, tu vois, derrière le barista, c'était moi.
Il ne servait pas, Vincent, il se servait. Ceci étant, qu'est-ce qui est le pire entre Vincent qui est cafetier et Serge Simon, très sérieux, qui est médecin?
Oui, je suis médecin.
C'était quoi, en première année de médecine, on te dit... Je suis mon médecin.
Bon, alors tout ça, c'est une époque ancienne, celle de Bègle dans les années 90. Alors, nous, on parle de ce titre 2026, remporté par Toulouse dans la douleur. Montpellier a dominé la deuxième mi-temps, mais au final, Toulouse a toujours été devant. Donc, Montpellier peut-il vraiment avoir des regrets, Vincent? Tu règles le problème. Et bien sûr, on attend les supporters montpelliérains et toulousains au 32-16. D'abord, on va écouter le staff et les joueurs avec Pierre Thévenet. Salut Pierre.
Salut messieurs, salut ça.
Alors les Montpellierains, apparemment, ils en ont des regrets.
Ouais, ils étaient touchés. Après la rencontre, il y a eu des larmes autour de la pelouse et de la frustration pour le manager Joan Codulo.
Déçu, frustré, dominé n'est pas gagné. On a l'occupation, la possession, on fait moins de fautes que l'adversaire et malheureusement, on n'est pas assez réaliste alors que c'était un de nos points forts sur la saison régulière. Je suis vraiment malheureux parce que je pensais vraiment qu'on allait gagner ce match.
L'entraîneur y croyait. Montpellier n'avait perdu que 3 matchs depuis le mois de novembre dans une de ses causeries diffusées sur Canal+. On le voit dire à ses joueurs que ce ne serait pas un exploit de gagner cette finale, qu'ils peuvent vraiment le faire. Et les Montpellierains ont dominé sur le match. 2 fois plus de courses, 8 défenseurs battus de plus. Les Toulousains ont dû plaquer 2 fois plus que les Montpellierains samedi soir. Le centre, Auguste Cadeau, a également des regrets.
Ça fait chier de passer à côté aujourd'hui. Parce qu'on avait largement la place, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Quand vous dites qu'on les regarde droit dans les yeux... J'ai envie de vous dire encore heureux parce que nous on y croyait. D'ailleurs, il n'y avait bien que notre groupe qui y croyait. Et on a prouvé qu'on pouvait rivaliser, mais c'est nul de pouvoir dire ça parce qu'on voulait montrer un peu à tout le monde qu'on était largement capable de gagner. Et aujourd'hui, on se bouffe les doigts, donc ça fait chier.
En revoyant le match, il y a 9 actions claires d'essais manquées par les Montpellierains, des mauls, des touches, des surnombres ratés à cause de fautes de main, de choix et de la très grosse défense toulousaine également. Mais le capitaine montpelliérain, Lenny Nouchi, retient le positif.
Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a 2 ans, on jouait un access match. Cette année, on échoue à 8 points face au grand Stade Toulousain. Donc, bien sûr qu'il y a de la frustration. Mais comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est surtout beaucoup de fierté d'avoir pu jouer avec ces mecs. On a regardé Toulouse soulever le bouclier. Ça fait mal. Maintenant, on a juste envie de montrer que le club de Montpellier grandit. Et c'est pas juste une saison au hasard qui tombe de nulle part. On est un club qui évolue depuis 2 ans vraiment correctement. Et on a envie de continuer comme ça.
Il faudra repartir au combat l'an prochain. Mais en attendant, Vincent, Montpellier risque de ressasser longtemps les occasions manquées et ce titre raté.
Alors, vous appelez le 32-16. Il y a beaucoup de Montpelliérains qui sont frustrés de l'arbitrage. Il y a aussi pas mal de Toulousains qui ne comprennent pas non plus que les Montpelliérains tiennent ce genre de discours, hein, comme si c'était presque facile, entre guillemets, en tout cas faisable, sur une finale qui n'a penché que dans un seul sens, Vincent, au final. Hein, puisqu'ils sont devant tout le temps. Ils mènent
dans un sens, non.
Ils ont toujours mené au score.
Non, mais je ne comprends pas que Toulouse puisse remettre en question qu'il y avait de la place pour Montpellier pour passer. Ils ont gagné très bien. Toulouse, c'est super. Et bravo, parce que ils ont 4 titres de champion de France. Mais quand tu gagnes, tu peux dire, c'est vrai qu'il y avait la place, Montpellier, ils avaient la place de passer. Les stats sont là. Maintenant, tu vois ce que je veux te dire? Il y a 50 ans, il n'y aurait pas eu de stats. Maintenant, il y a des stats. Et je vais te citer le 4 Cotrin que vendange le deuxième ligne.
Tyler Dugui,
canadien.
Même le Tyler Dugui contre eux.
J'ai jamais vu contre Toulouse une possibilité à 4 contre 1. Ouais. Je ne l'ai jamais vu pendant 20 ans. Donc là, il y a un 4 contre 1 criard. Il garde le ballon, il rentre dans la meule. Les ballons perdus sur les groupes pénétrants. La mêlée arbitrée, comme d'habitude, c'est pas sa faute à l'arbitre, ils y comprennent que dalle. Donc à partir de moi, je vais te dire, autant des fois je dis, quand tu vas sur la Lune, t'es pas obligé d'avoir été sur la Lune pour en parler, autant je dis, si t'as pas joué en première ligne, tu peux pas arbitrer. Ah, je te le dis sincèrement.
C'est plus compliqué la première ligne que
Amsterdam. Si t'as pas joué, tu le vois bien, Pierrot, si t'as pas joué en première ligne, tu peux pas jouer. C'est comme si, je pense que pour commenter du sumo, si t'en as pas fait, ça va être compliqué. C'est des trucs très mince, très, tu vois, que tu dois sentir en plus.
Après, les arbitres, ils ont un bagage quand même.
Très, très net. Et donc, l'arbitre, quoi, sur le droitier, lycée toulousain. Bon, il y a eu des fautes. Après Toulouse, c'est les champions. Ils gagnent. Ils gagnent. Et bravo Toulouse. Et encore une fois, bravo Hugo Moulin. En fait, même Hugo, il a eu quand même des craintes. Mais il y a les stats qui sont là. Ça veut dire que les stats disent que, ben oui, il y a 8 ou 9 fois, ben, sur un groupé pénétrant, ils auraient pu passer. Et les ballons qui loupent en touche, dans ces zones-là, où ils marquent énormément Montpellier, et ben là, ils n'ont pas marqué parce qu'ils ont fait des fautes. Il faut qu'ils s'en prennent qu'à eux-mêmes. Contre Toulouse, t'as pas beaucoup d'occasions de passer. T'en as très peu. Là, t'en as eu quelques-unes. Bon, Bègle n'en a pas eu. L'an dernier, ils en ont eu. Ils sont arrivés à coller, puis après, il n'y en a plus. Bon, ça a été bonsoir. L'année d'avant, ils ont pris 70 points. Le Racing a pris 70 points. Ils n'en ont pas eu. Eux, ils meurent 20-28. C'est bien. Mais quand tu vois, il ne faut pas qu'ils regardent le match au magnétoscope, parce que autrement, c'est.
Après, attention, il y a 19 points à la mi-temps. Hein. Qui revient de 19 points à la mi-temps en finale?
C'est ça,
hein,
c'est ça qui est fou.
Denis,
ben, c'est justement, ouais.
Écoute, je pense que Montpellier avait trouvé la clé, Toulouse avait trouvé la clé en essayant de contrer Montpellier sur ses points forts. Et c'est là où ils les ont pris, en fait. Ils ont fait déjouer. Et le manque de maîtrise de Montpellier dans les moments clés, ça vient de là. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à un tel combat, une telle férocité dans les rucks, un tel engagement physique. Moi, j'étais impressionné des tribunes samedi, ça tapait très fort. Mais du côté toulousain, ce qui est rare, enfin, à ce niveau-là, autant Montpellier, on n'est pas surpris, mais Toulouse avait mis à fou Willis, même le petit Roumain, ça cognait. Mais, et je pense que Montpellier, il ne s'attendait pas à cette rivalité-là, enfin, cet ascendant-là psychologique. Et après, bon, oui, il y aura des regrets éternels. Quand tu prends un essai casquette en début de match, tu peux pas te remettre. En fait, cet essai, il change tout. Ça enclenche le
C'est un essai casquette ou c'est bien joué?
Mais le talonneur, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Il n'y a pas eu un essai marqué dans le championnat depuis 25 ans. Si. Où il est le mec qui garde le fermé? Et le dernier défenseur,
du coup, ça veut dire qu'il marche pas.
Le dernier défenseur, c'est même il part pas sur la fête de passe, le dernier défenseur. Il prend le porteur du ballon. On le sait, deux contre un, si tes derniers défenseurs t'occupent pas de la fête de passe, tu prends le porteur du ballon. Le mec qui joue la fête de passe, non mais t'as vu ça où?
Non, mais je pense que les Montpellier-Lyriens, non, comme j'aurais jamais dit,
je le ramasse. Les joueurs de Montpellier,
les mecs de Montpellier, vas-y.
Non, là, j'y arrive pas.
Montpellier-Lyriens.
Non, j'arrive même pas à le dire. C'est affreux.
Non, mais là, c'est pas possible.
Arrête, tu m'emmerdes.
Comment t'as réussi? Venez de le dire, Adrien.
Oui, mais c'est
répété.
Il a dit, mais
je suis Montpellierin.
Montpellierien.
C'est ouf.
Arrête.
La vraie dyslexie, non,
oui,
mais
c'est un sens, quelque chose.
C'est orthophoniste.
C'est les joueurs de Montpellier.
Ouais, mais les orthophonistes ne donnent plus de rendez-vous après un certain âge.
Non, mais c'est dur. Quand on va amener Coco au vétérinaire pour le piquer, on va amener Denis aussi.
Piro, il a quand même dit, c'est dur. Montpellierien, c'est dur.
Non, mais c'est fou. Surtout qu'il a toujours pas réussi à le sortir correctement.
L'année dernière.
Alors.
Non.
Vas-y, Denis.
Parce qu'on va parler rugby. Non, les joueurs de Montpellier, ils ont manqué de maîtrise, malheureusement pour eux. Et c'est en demi-finale, on avait vu déjà ça. Il y avait déjà, on se ressentit. Ils auraient pu très bien passer à la trapinette en demi-finale, alors qu'ils étaient devant le Stade Français, ils étaient plus forts. Et là, pareil, je crois que en fait, le poids de l'événement les a tués. Je pense que le manque de lucidité, ces moments de fébrilité au moment où il fallait scorer, eh bien, ils l'ont pas fait.
C'est ça qui manque. La différence entre une équipe qui en finale et qui a gagné, et une équipe qui ne va pas régulièrement en finale, même si Montpellier a gagné en 2022.
Je voulais finir sur ça, le vécu commun, tu ne peux pas le remplacer.
Bah oui.
La vérité, c'est que Toulouse, ils sont habitués à ces moments-là.
Quand tu vois Willis,
et puis, ils n'ont pas fait un bon match, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Et c'est là où ils sont des grands champions.
Oui, mais en faisant ce même match, ils auraient pu perdre, c'est ça qu'on explique. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si ça tourne pas du bon côté,
le moins bon, c'est Toulousain et ça gagne quand même. Oui. Donc
ce match-là n'est pas une finale. Voilà. Et c'est un match de la saison régulière. Est-ce que la question, c'est de savoir, est-ce que finalement Montpellier aurait joué sa chance jusqu'au bout, et peut-être que Montpellier n'aurait pas commencé le match de cette manière-là si ça n'avait pas été une finale, mais juste un match de la saison régulière, parce que le début de match, ils sont hésitants, ils sont pris par l'événement.
Ils sont dans le match quand même.
Ils font des erreurs.
Mais
c'est la différence entre les très grands. Tu sais, quand tu dis t'es pas loin. Oui, mais enfin, si tu te fais breaker sur le premier jeu, tu cours après le score et t'as beau très bien servir après, si tu prends 3-0 au bout de 10 minutes, tu vas finir par dire 6-3 à la fin du premier set, et on a l'impression qu'on n'est pas très loin. Mais si, en fait, parce qu'en fait, tu te fais briquer au premier jeu.
Oui, mais c'est pas qu'une illusion. C'est pas qu'une illusion. Là, tu parles de. Tu te dis, oui, mais il y a quand même une réopposition. Quand
mais il y a eu une opposition, mais l'opposition face à Toulouse, il faut que tu la sois. Il faut que tu puisses la voir de la première à la 80e minute. Mais... Et à la fin, il y a eu des petites. Il y a eu quand même des hésitations. Et tu vois la différence de Toulouse qui, lui, quand ils doivent mettre le jeu au pied ou ils doivent être très précis en défense, comme par hasard. Toulouse, ils sont nickel, mais parce que ils ont cette culture de la gagne, cette expérience, c'est ça la différence. Ils sont plus sereins à la fin, on est bien d'accord.
Mais je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait pour jouer Montpellier.
Mais
c'est là où ils sont très forts.
Mais c'est ça, c'est que même en jouant pas bien, t'es capable de jouer juste.
Mais Montpellier est encore donc très loin, en fait, du coup, parce que...
C'est pour ça que les regrets...
Ils nous parlent des stats, je veux bien.
Dans la maîtrise, ils sont loin.
La première des stats en rugby, c'est le score. Quand t'es mené à la mi-temps 25-6, t'as beau me parler de toutes les stats que tu veux, ta finale, elle est perdue 90% du temps. Ouais. Et on a eu l'impression, parce que s'ils le font, c'est un exploit historique, hein, Montpellier, de revenir face au Stade Toulousain de 25-6. Bon, à la mi-temps, on s'est changé des messages, on était plutôt d'accord pour dire qu'ils pouvaient en prendre 50. Alors, on est d'accord,
Denis et Vincent. Bien sûr, mais on l'avait
donc,
peur,
en fait, au final, ils sont peut-être encore très loin, du coup. Parce que s'il n'y a pas cette première période de Toulouse, ils ne vont peut-être pas tenir comme ça jusqu'à la fin.
Le score est trompeur. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des regrets pour Montpellier? Les regrets sont réels? Mais en fait, ils doivent être mesurés, parce que quand tu vois que Toulouse, au final...
Mais on ne peut pas y répondre, même les joueurs.
Non, mais c'est des choses qui sont...
Si jamais ils le perdent, on dit, est-ce que Toulouse a des regrets? Évidemment. Toulouse, ils sont capables de 10 fois mieux.
Sur les statistiques, pour revenir sur ce que dit Adrien, toutes les statistiques sont en faveur de Montpellier. Si tu n'as pas regardé le match et que tu regardes la ligne de score, c'est tout pour Montpellier.
Oui, mais vous trompez.
Ça ne vaut pas quand tu scores.
Les grands gagnent en jouant pas bien. Les grands savent gagner quand tu joues pas bien.
Non, les grands défendent du bol parce qu'ils ont l'habitude de la finale et ils ont du coup de chance.
Les statistiques sont en faveur de Montpellier.
Arrêtez de dire toujours les mêmes trucs. Oui, mais parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils sont champions.
Ça veut dire que de ton point de vue, Toulouse a eu un peu de chance à la fin?
Non, mais bien sûr qu'ils ont de la chance, c'est bien entendu qu'ils ont de la chance. Okay. Quand ils loupent, bien entendu qu'il y a eu des arbitrages quand même sur le groupe pénétrant, il dit que le mec il passe devant. Comment tu le siffles ça? Ils sont dans l'embut. C'est vraiment bravo le Stade Toulousain et c'est eux qui ont la meilleure équipe. Mais sur ce match, ils peuvent passer à la trappe.
Ouais, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu te dis que Montpellier va faire basculer le match en
ce moment?
Attends,
il y a 8 points, il faut marquer 2 fois, ils ont un peu plus de 10 minutes.
Non, ils sont en deuxième, ils ont 18 minutes quand Léo Colli marque.
Ouais. Ils sont pressés par le temps et je trouve que ça se ressent, moi. Il y a non, pas un moment.
Mais pas après, du tout, il y a une pénale touche, après, ils peuvent revenir après, à 28-27 à 10 minutes de la fin.
Dans les zones là où ils jouent mal, attention, moi, ils jouent très très mal dans les zones décisives. Écoute-moi, revois le match, regarde la tête d'Hugo quand il se lève, il est au bord. C'est la panique, comme jamais il a eu panique, là, je te le jure. Il s'est dit, on passe à la trapinette, ils ont plus un ballon, les autres.
On va donner la parole aux supporters du stade.
Arrêtons de dire, il y avait une possibilité pour Montpellier, peut-être de le faire. Le champion a gagné, le Stade Toulousain le meilleur, c'est sûr. Mais sur ce match-là, précisément, si tu fais 5 matchs, peut-être que le Stade Toulousain va gagner 4 fois. Mais sur ce match, précisément...
Un texto d'un ami qui nous écoute, il craque Vincent 25-6 à la mi-temps, il rigole. Olivier Romain.
Ah ben oui, Vincent. Non, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le seul moment où peut-être ça a pu basculer, c'est dans les dix dernières minutes.
Je te dis que le stade, il est bien. C'est la réalité du 25-6. Ok. Et à la fin, la réalité, c'est qu'ils reviennent à 15 minutes de la fin, à 20, à 28. Faut arrêter.
Non, mais là où je suis pas d'accord.
Comme c'est un spécialiste de la mêlée, que le droitier de chez eux s'effondre tout le temps, qu'il est pas sifflé. Il a arrêté d'arbitrer les mêlées. Il me semble que je te l'ai entendu dire, Denis.
Tu l'as dit en commentaire.
Dis-le maintenant. Qu'il a arrêté. Non, tu le dis pas. T'es là, t'es mieux, pas du tout.
J'assume. Je pense que la mêlée, je suis pas un connaisseur de la mêlée, mais il me semble qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage.
Alors, justement,
ils arrêtent d'arbitrer la mêlée.
Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Valentin au 32-16. Bonjour, Valentin.
Oui, Oui, bonjour.
Alors,
j'en pense que moi, c'est un petit coup de gueule. Là, ça fait 4 ans que le Stade Toulousain gagne grâce à l'arbitre en finale de top 14. Tous les ans, c'est la même chose. L'année
dernière, il me semble pas qu'on ait gagné l'an dernier, Valentin.
Le Stade Toulousain gagne. Il y a 3 ans, c'est pareil. Et là, cette année, c'est la même chose.
Il me semble pas qu'on l'ait dit l'an dernier, alors que c'était une finale très serrée.
Quand ils sont champions, ils sont champions. Il faut arrêter de tout remettre sur l'arbitrage à chaque fois.
En première mi-temps, Montpellier. Écoutez, Valentin.
Montpellier, pourquoi ils prennent pas les points? Ils ont voulu faire les mecs.
Ils peuvent scorer plusieurs fois, tu as raison.
Quand t'es en finale, tu prends les points. Tu sais que t'as à faire une grosse.
Mais ça, c'est pas vrai. N'écoute pas. Ça, c'est comme les mecs qui te disent qu'ils coupent partout dans la vie. Dès qu'il y a un courant qui court, comme ça, tout le monde le suit en disant
tu prends pas les points, Vincent, toi ?
Oh, ma chérie, ayez un peu de personnalité, de reconnaître les choses. Les points, je les aurais pas pris, moi.
C'est vrai ?
Et personne ne les aurait pris. Alors, quand c'est fini, les mecs disent il fallait prendre les points. Mais non, il fallait pas les prendre parce que si un pénal touche, le lancer, il est bon, et bien, passe devant, voilà, donc non, mais vous déconnez, vous êtes toujours dans le climat favorable qu'il faut dire,
voilà. Quand ça marche pas, il faut arrêter, faut changer de stratégie, hein.
Mais non, mais
faut jouer à la main,
Valentin, il y a les stats, on te dit, la Tève, redonne-nous les stats.
La possession, c'est Montpellier qui l'a, le nombre de pénalités.
Bah, pas que la possession. Les défenseurs battus, les franchissements, tout est pour Montpellier.
À ce jeu-là, c'est pour ça que je te dis bravo le Stade Toulousain et Bruce Willis. Merci à Bruce Willis, à Jack Willis, d'avoir récupéré tous ses ballons parce qu'il avait fait un match. Alors, le fils de la Roum a fait un match énorme et la troisième ligne a fait un match énorme. Mais tu te trompes pas, s'il n'y a pas Willis à machin, le score n'est pas le même. Il les a battus presque. Comment lui tout seul, Willis. Il a fait un match extraordinaire. Après, de dire il a fallu prendre les points, mais c'est des conneries, ça fait 5 ans que je les écoute.
Mais pourquoi il faut pas les prendre, Vincent,
Quand t'es Montpellier, toute la saison, t'étais le plus performant dans les 22 mètres adverses de tout le championnat, et bien tu prends pas les points, tu vas en touche. Et bien là, ça n'a pas marché parce qu'il y avait le Stade Toulousain devant et parce qu'eux n'ont pas réussi à scorer.
Voilà. Merci à Valentin ainsi qu'à Hervé, à tous les appels au 32-16. On n'a pas eu le temps de prendre tout le monde, évidemment, mais c'était un débat enflammé dans un instant.
Et puis on a le droit de parler de l'arbitrage, Pierrot. Il faut arrêter de dire qu'on est contre le Toulouse parce que l'arbitre a été mauvais.
Dans un instant, Maroc, Pays-Bas et puis le forfait de Léon Marchand au championnat de France de natation. Attention, vous entendez l'alerte, c'est le moment de vous inscrire en envoyant but par SMS au 7-32-16. Vous n'avez que 10 minutes et faites-le parce que si vous êtes tiré au sort, eh bien vous pourrez gagner la prime de match RMC qui s'élève actuellement à 77 500 euros. Donc vous avez 10 minutes pour envoyer but par SMS au 7-32-16. Allez-y, on appelle depuis maintenant plusieurs jours et la prime de match n'a toujours pas été gagnée. A tout de suite avec Maroc-Pays-Bas.
C'est ça, 25, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h30, on y revient au Mastic, le Super Moscato Show. Pierrot, dans une demi-heure, claque, c'est le programme.
Alors, dans une demi-heure, on va se projeter sur ce 16e de finale qui a lieu à 19h. Hein, ça arrive très vite. Oui. C'est Brésil-Japon. C'est une belle affiche avec un Brésil qui n'est pas flamboyant. Alors, croyez-vous toujours au Brésil dans cette Coupe du Monde 32-16 pour débattre avec la Dream Team. On sera notamment avec Christophe Dugarry. Tu t'y connais quand même un peu en ballon. Hein.
Moyen.
Ah, un petit
il est correct, ce jeune. Hein.
Moyen, ouais, Brésil. Il y a beaucoup de coloris, Christophe.
Mais la Coupe du Monde,
on en parle, il est très bon.
Tout de suite sur RMC.
RMC, le Mosca.
La Coupe du Monde, donc, passait enfin à la phase à élimination directe. Hier, le Canada a battu l'Afrique du Sud, 1-0, à 3h du matin. C'est l'affiche de ces quarts de finale, parce que c'est vrai que le tableau est très déséquilibré. Hein. Il y a des très beaux matchs sur le papier, d'autres qui sont moins intéressants. Après, il faut que ça se vérifie sur le terrain, évidemment. Mais ce Maroc-Pays-Bas, il est assez alléchant et surtout, il est très indécis. Qui est le favori ? Réponse du sélectionneur marocain Mohamed Wahbi et du capitaine néerlandais Virgil van Dijk.
Par rapport au fait d'être favori, pas favori, ça m'est égal. Ce qui va compter, c'est sur le terrain. Qui se voit pas favori ou qui se voit favori, pour nous, ça change rien du tout. Maintenant, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer. Les équipes adverses respectent le Maroc. On respecte aussi les Pays-Bas. C'est une grande nation de foot. On a déjà vécu un des meilleurs matchs de la Coupe du Monde contre le Brésil. Je pense qu'on en vivra encore un demain.
I expect a very, very difficult game. Je m'attends à un match très très difficile contre une équipe qui a beaucoup de qualité, l'un des meilleurs latéraux droits du monde en ce moment, un avant-centre, Saïbari qui est très en forme, qui a fait une très bonne saison, un gardien d'expérience, un bon entraîneur, Brahim Diaz. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Leur milieu défensif qui est en train de percer, donc on s'est bien préparé. J'ai vraiment hâte, ça va être un challenge, c'est le genre de match que tu as envie de jouer. These are the games you want to be part of. Like I
said, it's a knockout game. Alors donc Maroc Pays-Bas, ça pourrait évidemment, on en est loin, mais être l'adversaire de la France en quart de finale, faut encore aller jusque là parce que c'est vrai que quand l'Argentine joue Curaçao, bah le oui. Maroc se tape les Pays-Bas et inversement, hein, c'est comme ça. Hein. C'est l'injustice du tirage au sort.
Le tableau, il est favorable à l'Argentine.
Très favorable.
Très favorable.
C'est,
très
sur le papier, c'est un boulevard.
Au moins, normalement. Au moins jusqu'en quart de finale. Hein,
Pays-Bas Maroc, 3h du matin, qui jette un œil en direct?
Ah bon. Alors ça c'est une vraie question.
Ah moi j'ai bien envie hein. Il faut mal dormir.
Tu me le réveilles.
Non mais moi je me réveille régulièrement donc je un petit coup.
T'as des soucis toi, c'est pour ça. Moi je
peux regarder.
Ouais. Toi 3h ça passe, Vincent, ça passe.
Il a pas de soucis Vincent.
Alors dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules ce matin, Alain Marchal, je parle des horaires. Alain Marchal il râlait parce qu'il y a des matchs trop tard. En fait il a pas intégré le concept du décalage horaire.
C'est bon.
Quand la Coupe du Monde est en Europe, il y en a d'autres pour qui c'est tard.
Non mais c'est vrai que c'est Alain, quand tu veux voir un match, tu vois, tu putain. Tu
il était limite de dire, mais pourquoi ils ont mis ça à 3h du matin?
3h du matin, il faut tenir, quoi, tu vois, parce que tu dors, quoi, tu vois, ça te bousille.
Ah, journée, si fait chaud, tu te réveilles régulièrement, non?
Denis, ouais, ton favori. Ton favori.
Tu dors, tu te réveilles pas.
Ton favori, ouais. Maroc.
Maroc?
Ouais,
ah, ouais. Fort. Très bien.
Ah, moi, je le vois aller très loin, le Maroc.
Ah, ouais.
Ouais. Ah, mais moi aussi, tu vois, c'est le Maroc.
Ah bah oui. Le vainqueur affrontera le Canada.
C'est pas que j'espère, hein, c'est que je pense qu'ils ont les moyens de passer. Hein.
Alors, on zappe la Coupe du Monde, on reste sur le foot, puisque le Paris FC a repoussé sa reprise de 8 jours. Reprendre mercredi, et finalement, ce sera le 9 juillet. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur. Et a priori, eh bien, ce ne sera pas Antoine Comboiré, c'est Daniel Riolo qui nous a alerté là-dessus hier. Fabrice Hawkins confirme et a priori donc les dirigeants du Paris FC ont même déjà reçu des candidats au poste d'entraîneur, notamment Liam Rosenior, l'ancien coach de Strasbourg Chelsea.
C'est... Lui, il viendrait avec 8 mecs, donc ils sont pas trop d'accord, les mecs, parce qu'il faut casquer 8 gosses. Il vient avec une équipe, écoute-moi, c'est les majorettes de la fanfare de Rabastens. Il y en a 8 qui suivent derrière. Donc le président se dit quand même.
Mais c'est curieux quand même, déjà,
curieux qu'il soit pas entendu.
Mais oui, attention, tu l'as vu quand même, il boite le problème de
Dato.
Il nous l'a dit la dernière
fois. Oui, mais c'est pas la raison principale, je pense que voilà.
A priori, c'est pas lui qui prend la décision.
C'est un choix de tourner la page, de dire on repart avec un entraîneur avec un nouveau staff et puis voilà, j'ai de nouveaux joueurs, mais c'est le football d'aujourd'hui,
mais c'est tard, non?
Ouais. Mais tard, et puis ils sont pas entendus. Oui, il y a un problème entre Antoine et je sais pas, parce qu'à un moment donné Antoine c'était pratiquement certain qu'il y allait,
qu'il restait.
Donc il y a eu un truc qu'on ne maîtrise pas.
C'est bizarre quand même. Il y en a toujours un qui intervient là qui dit ah non mais moi j'ai un mec. Bon, c'est les agents. Les agents c'est terrible. Hein. C'est comme attention au rugby, ça devient comme ça. Quand t'es dans le truc, après les mecs ils tournent comme ça, ils reviennent tout le temps. C'est les agents qui passent.
Non, mais c'est vrai qu'après Liam Rosenior, bon, moi je suis désolé mais le Paris FC, je sais pas ce qu'ils font. Alors je dis pas qu'il fallait forcément continuer avec Antoine Comboiré, mais Liam Rosenior c'est un mec qui est en échec. C'est-à-dire qu'on l'a vu à Strasbourg, ça a bien démarré, ok, il faisait plutôt du bon boulot. Au niveau supérieur, il s'est bien vautré, attention, hein, à Chelsea, il a vraiment, vraiment un passage très compliqué. Moi, je comprends pas.
Non, mais
pourquoi, en fait, parce que ce mec, il a l'image foot anglais, je sais pas, entraîneur anglophone un peu moderne, mais sur le terrain, ce qui compte, c'est ce que tu fais de tes équipes, le Paris FC. Je suis très étonné.
Mais dans la continuité, pourquoi tu te gardes pas Antoine? C'est surtout ça mon interrogation. Je dis, parce qu'Antoine a fait du bon boulot, il est proche des joueurs, il rassure tout le monde, il apporte une certaine confiance. Et tout d'un coup, tu dis bon, mais c'est fini. Voilà, tu nous as aidé à rester en première division et on le vire. Non, je trouve ça là.
Non, mais après Antoine, tu sais, il était méfiant hein, quand il est venu qu'on a interviewé. Il était quand même méfiant.
Il dit, je connais le foot.
Tu sais, quand il était premier, il était premier de la Ligue 1, ils l'ont foutu dehors parce que c'est comme ça.
Non, mais c'est le foot aujourd'hui.
Rosenior, je vais te dire, Rosenior, c'est pas frais, quoi. C'est pas frais. Moi, ce serait le PF, comment PFC. Ça s'appelle, le pompe funèbre général. Écoute-moi, ils peuvent, justement, qu'ils démarrent sur une image fraîche avec un mec, toi qui nous sortes un mec, un jeune qui arrive là, pim, pom, pam, qui casse tout, un gueulard, un mec, qui, tu vois, moi, je prends, Voilà, c'est pas frais,
Rosignol. Ils ont l'objectif de recruter le Paris FC.
Ils vont recruter, oui, bien sûr.
Donc l'entraîneur qui va venir là. L'entraîneur qui va venir là va avoir son mot à dire, vous pensez, pour les recrutements ?
Normalement, oui. On peut y penser. Mais
si l'entraîneur n'a rien à dire, ma poulette, c'est la première. Oui,
normalement, les entraîneurs n'ont pas le même pouvoir sur la politique sportive.
Oui, tu vois ce que je veux te dire, Pierrot. Ouais. Fonctionner différemment. Tu arrives à Paris avec un autre club, une autre ambition, avec d'autres mecs, avec un mec. Tu vois, tu fonctionnes différemment. Tu essayes de créer une espèce de style en allant chercher un entraîneur, en allant chercher des joueurs, en t'impliquant. Là, j'ai l'impression que c'est faux dernier moment. Tu vois, pour les mecs qui sont au Cap Ferré, sur le
bateau. Non, mais surtout.
C'est vrai.
Pour eux, c'est frais, en fait. Aussi financier, forcément.
Non, mais ce qu'on sait, c'est le club qui veut se séparer de Comboiré.
En tout cas, c'est pas une raison médicale, Pierrot. Donc,
allez, on.
Ouais, mais là, ça sent la rotule en plastique.
On passe au championnat de France de natation. L'attraction, évidemment, c'est la présence à Saint-Etienne de Léon Marchand. Nous sommes en direct avec Julien Richard. Salut, Julien.
Salut tout le monde.
Alors, manque de bol, Léon Marchand est forfait sur 200 mètres bras. C'est assez rare d'être blessé en natation, mais ça arrive. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite de la compétition? Parce qu'il restait pas mal de courses pour Léon Marchand.
Oui, en fait, Léon Marchand, il a ressenti une douleur aux adducteurs pendant sa série ce matin du 200 mètres brasse. C'est la brasse, il y a un mouvement de ciseau avec les jambes et ça.
Ça étire les adducteurs.
Ça étire les adducteurs.
Comme les grenouilles.
Exactement, comme une grenouille. Il a donc décidé de couper son effort à 50 mètres de la fin de sa série. Alors, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de le voir faire en série pour gérer justement son effort. Mais là, il se fait déposer dans la dernière longueur par deux concurrents. Il termine 9e temps seulement des séries. Alors, un forfait lui permet de rentrer en finale, mais très rapidement. Lui, son forfait est annoncé pour la finale du soir. Pas plus de précision pour le moment sur la nature, la gravité de cette douleur. Il faudra attendre certainement demain pour passer des examens. La suite de son programme sur ces championnats de France, en tout cas, elle est en suspens. Et, en plus du 200 mètres brasse, il lui restait 4 autres courses jusqu'à jeudi. Samedi dernier, Léon Marchand, il avait frappé fort sur le 400 mètres 4 nages avec la meilleure performance mondiale de l'année. Ces championnats de France, ils sont qualificatifs pour les championnats d'Europe début août à Paris, mais ce forfait n'aura pas d'impact sur sa participation, même s'il ne nageait plus de la semaine, parce qu'en fait, il est déjà qualifié sur le 400 mètres 4 nages, donc il peut quand même être aligné sur les épreuves de son choix. Alors, il faut quand même noter qu'il ne faut pas qu'il y ait 4 places prises sur ces épreuves-là à l'issue de ces championnats de France.
Parce qu'en fait, il prendrait la place.
S'il ne prend pas la place de quelqu'un, il peut s'aligner.
Oui, c'est ça.
Il n'y a aucune des épreuves sur laquelle on a 4 Français capables de se qualifier.
Non,
il n'y a aucune.
200 mètres brasse, 200 mètres papillon.
Non. Bon, très bien.
C'est pas facile.
La brasse, la nage la plus dure, c'est ça, Julien?
Tactiquement,
physiquement, c'est.
C'est dingue parce qu'après, quand t'es à l'école, comme ça, que tu vas à l'école et t'apprends à nager, tu sais, t'apprends la brasse, alors que c'est dur la brasse, non?
T'apprends
la nage indienne, c'est plus facile.
Toi, tu fais la brasse à la Piermondi. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef?
Non, c'est la nage indienne.
La nage indienne.
Piermondi, c'est la nage indienne, comme ça, sur l'oreille.
Julien Richard, donc en direct de Saint-Etienne pour les championnats de France de natation, forfait de Léon Marchand, mais pas de remise en question sur sa partie. C'est participation au championnat d'Europe. À Paris, ça sera un des événements de l'été, évidemment. On va passer au Tour de France. Alors, CMA, CGM Décathlon a dévoilé son équipe, la composition de son équipe pour épauler Paul Sexas sur ce Tour qui démarre samedi à Barcelone. On est en direct avec Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Salut Pierre, salut Vincent, salut à tous.
Alors, question, bonjour. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette compo et qu'est-ce que ça dit des ambitions de Paul Sexas?
Écoute, ils sont 8, mais ce ne sont pas les majorettes de Rabastin, ça, apparemment, comme aurait dit Vincent. Mais il y a Paul Sexas, effectivement, malgré sa chute à la veille de l'arrivée du Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a 15 jours. Bon, on avait appris jeudi dernier qu'il était en reconnaissance du col du Galibier, donc on n'avait pas trop d'inquiétude. Un Galibier qui sera au menu de cette édition du Tour de France. Il était d'ailleurs aux côtés de Nicolas Prodhomme, Aurélien Paré-Peintre et Mathieu Ricciatello qui seront avec lui sur la grande boucle. Mais lors de cette sortie, il y avait également l'Autrichien Gregor Mühlberger. Or, ce dernier n'est pas dans cette composition finale d'équipe, pas plus que Stéphane Bissecker, parce que ces derniers jours, il y a eu des hésitations et un choix a été fait. Et il y aura finalement une petite cellule autour du sprinter néerlandais Olaf Coy.
Ah.
qui a été longtemps absent en raison d'un virus en début de saison, et il sera accompagné de Sisbol, son poisson pilote. Donc il y aura un leader avec Paul Sexas, et puis un sprinter pour jouer à la fois le général et les victoires d'étape. Et puis il y a Tish Benoit et Dan Hule qui complètent l'effectif. Bon, si la question c'est est-ce que Paul Sexas va être à la hauteur de Pogacar et Vingegaard, j'ai pas la réponse, mais ce que je peux dire, c'est qu'il sera samedi le plus jeune coureur à prendre le départ du Tour depuis 1937. Donc ça nous laisse quand même le temps de rêver.
Non, mais ouais. Ça veut dire aussi que Decathlon CMA CGM ne met pas tous ses œufs dans le même panier.
Exactement.
Qu'il y a quand même deux, trois victoires d'étape au sprint qui sont au moins tentées.
Prenables. Hein,
et qu'on n'a pas mis sept coureurs à disposition de Paul Sexas.
De Paul Sexas, effectivement. Okay. Parce que c'est encore une carte sur l'avenir et qu'il est là aussi pour apprendre.
Et Tish Benoit joue le classement général, Pierre-Yves ?
Ah non, il va être là en lieutenant pour aider avant tout Paul Sexas.
D'accord. Bah alors, moi j'ai une question. Donc, on sait que l'équipe que construit CMA-CGM autour de Paul Sexas, c'est aussi pour éventuellement poser des problèmes à UAE. Pogacar, eux, j'ai l'impression, j'ai lu que l'équipe qui est construite autour Pogacar, eux, c'est tout pour le maillot jaune.
Ah oui.
Ils dire que le ils reste, ils s'en fichent. Hein.
Oui, de toute façon, les victoires d'étape, elles viendront d'elles-mêmes avec Pogacar. Hein. Oui. Ils auront tout, eux. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude du côté de Decathlon, CMA, CGM.
Les Del Toro, Yates, ils y sont tous. Hein.
Ils peuvent faire un et deux. Hein, si, c'est pas impossible. Hein. Del Toro peut très bien être sur le podium avec Pogacar.
Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci. Le Tour de France à suivre en direct sur RMC à partir de samedi en intégralité, bien entendu. On va retourner à Wimbledon. Ce premier tour, il est compliqué pour Yannick Sinner face à Kecmanovic, Eric Salio.
Ouais, c'est très très compliqué pour Yannick Sinner. Un set partout donc face au Serbe. 6 jeux à 5 pour Kecmanovic dans la troisième manche. C'est Sinner qui va servir. Et puis je viens de découvrir sur les réseaux sociaux qu'il y a une marque de sang à l'intérieur de la chaussure de Yannick Sinner. Donc peut-être il a une grosse ampoule, je ne sais pas, mais en tout cas, il est pas au mieux. Déjà, son premier set n'était pas bon, mais vraiment, il a du mal à trouver ses marques sur le gazon immaculé du center court.
Très bien, on continue de suivre cette rencontre avec toi. Eric, Journal Moyen, deuxième édition sur RMC.
La deuxième édition avec... Il y a des clashs sur RMC entre Christophe Cessieux et Denis Charvet. Ils ne se supportent plus. Et puis...
Il est temps que ça s'arrête.
Mais Denis devient hargneux.
Non, il est temps que ça s'arrête. Et puis, la Voix du Nord a retrouvé une star de la télé, du foot français, du Moscato Show. Elle a retrouvé le monsieur qui a eu cette phrase magique un jour sur dans Quotidien. Yes, is Giroud. Eh bien, ça y est, il parle dans la presse. Et c'est une star. Rendez-vous dans le Journal Moyen, deuxième édition, tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h46, le Super Moscato Show. On y revient, on sur le Journal Moyen d'Adrien Aiguen, deuxième édition.
Deuxième édition sur RMC, une petite tension, je ne sais pas de quel ordre, entre Denis Charvet et Christophe Cessieux ce week-end. Le journal La Voix du Nord a retrouvé Geoffrey François, oui, yes, is Giroud. Et puis 16h55, première question du Kikadi du jour. Vous écoutez RMC, vous avez bien révisé, j'espère. Denis, yes. Tu représenteras Christophe Dugarry sur la première question. Au moins, il marquera un point. Il est nul, du gars, au Kikadi. C'est le 2721e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct live, en plein milieu de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez toujours pas entendues sont dans le journal moyen. Deuxième édition.
J'ai écouté les grandes gueules du sport, c'était intéressant, ce week-end, 9h midi, sur RMC, avec un Pascal Duprat qui nous offre un petit moscard d'entrée de jeu. Merci Pascal.
Dembélé, tout le monde lui est tombé dessus dès le premier match. Dembélé, il remet le clocher au milieu des villages.
Non, pas parce qu'il remet que le clocher, non, faut qu'il y ait une église pour avoir un clocher. Christophe Cessieux nous parle de David Gaudu et de son attitude avec ses équipiers. Christophe ?
Mais il a eu des comportements pas très sympathiques. Je me rappelle notamment à l'égard de Dardenault Desmar, qui était son coéquipier.
Mise en route un peu compliquée pour Christophe. Et puis alerte, deux amis à nous, Vincent, se chiffonnent en direct. Denis et Christophe, Dunce et Christophe Cessieux. Ils ne se supportent plus. Débat à la base. Débat, le Stade Toulousain est-il invincible en finale ? Christophe Cessieux argumente, mais ça ne convient pas trop à Denis qui recrade Christophe en direct. Et là, c'est le clash.
et que Montpellier réalise un match à 150% grâce à la motivation de des journalistes qui sont allés mettre des pièces, je me dis qu'il y a peut-être une chance pour que Montpellier soulève ce soir un deuxième bouclier. Donc c'est pour ça que j'ai rien entendu. Je veux qu'on raccorde depuis Pascal Duprat avec Toulouse.
Est-ce que c'est le débat? Tu vas continuer le débat.
On te demande. Fais-le tout seul ton débat. Tiens, vas-y.
Si ça t'amuse pas,
qu'on te donne des arguments, fais-le tout seul ton débat.
Si c'est pour dire que Montpellier a une chance de gagner ce soir, alors là, on va où? On va où alors? Fais-le tout seul ton débat.
Tu es quand même placé pour envoyer ce genre de punchline, toi.
Oui, bien sûr. J'ai mieux, Vincent. Deuxième débat tendu.
Je voulais juste énerver. Ah oui, je voulais énerver.
Deuxième débat tendu à l'occasion des championnats de France avec Léon Marchand, qui est très discret, Léon Marchand, qui parle pas beaucoup. Débat général, un grand champion doit-il se faire discret? Denis n'en veut plus de Christophe Cessieux. Et là, on est sur du boudin. Vincent, on est sur un boudage en direct.
C'est vrai. C'est dans la dimension aujourd'hui où on est. C'est plus du tout celle qu'on
a. Oui, maintenant, c'est ton père ou c'est ton agent qui fait les films.
Mais, oui, non, mais donc, ce que je veux dire,
ça donne une dimension incroyable. Mais regarde, tu apprends des choses.
Mais Antoine Dupont, il va au Festival de Cannes, tout est hyper commenté. Ou critiqué. Il faut faire attention.
C'est ce que j'allais dire à l'instant. Parce qu'il ne parle pas, il ne s'exprime pas. Non, mais c'est en dehors des. Enfin. Vas-y, non, ça va.
Allez, Denis, on t'écoute. Oui,
arrête, tu rigoles ou quoi?
Pas toi.
Non, mais c'est bon.
Vas-y.
Non, c'est bon.
T'es parti, Denis.
C'est incroyable. Ah, ça y est.
Là, je peux plus voir.
Non, mais parce qu'en fait, je vous explique ce qui se passe.
Voilà, ce qui se passe, c'est qu'il se supporte plus. Non, c'est bon. Allez, c'est chaud, c'est comme ça. Les paris RMC.
Ah, mais j'adore Christophe. Il est insupportable.
J'ai écouté les paris RMC, Christophe Payet. Ah, je suis content parce que Christophe Payet, les paris, il m'envoie souvent des petits messages pour me dire de 15h12, Denis a bafouillé sur Tao Fifénua. Il m'envoie souvent Christophe Payet, sauf que hier, c'est lui qui est pris par la patrouille. Merci.
Soko Barres, j'ai oublié, à 3,35 côté Montpellier.
Ngandebe.
Ngandebe à 2,80. Tao
Fifénua.
À 2,80.
Toi, je t'enverrai pas manager à Tahiti.
C'est quoi en fait? Denis est pas là, tu veux le remplacer?
Denis est pas là, tu veux le remplacer?
Merci, Jean-Claude.
Et puis l'intégral sport. Arnaud Valadon annonce le sujet natation, les championnats de France. Et Arnaud rend hommage à Pierre Dorian. Il nous fait une mini Pierre Dorian qui est le maître sur la natation. Puisqu'on parle de Toulouse, il y a un Toulousain célèbre aujourd'hui qui fait son retour, mais pas en rugby. C'est Léon Marchand, la star de la natation française et mondiale. Mais ça nous rappelle quelque chose.
Il n'est pas maîtrisé.
Le GOAT de la natation à jamais, c'était Pierre Dorian avec Maxime Grousset.
Et toi, Maxime, comment tu t'es mis à la natation? Pardon.
Elle est magnifique.
C'était au JO, non?
Non, c'est après.
Ah, mais qu'est-ce que t'as fait comme ça?
La natation.
Toujours l'intégral sport avec la Formule 1, le retour de Jean-Luc Roy. Alors. C'était le Grand Prix d'Autriche ce week-end. Et Jean-Luc a trouvé un nouveau copain pour rire, parce qu'il aime bien rire, Jean-Luc Roy. Il fait des blagues sur le règlement, lui. Jean-Luc, ça le fait rire, de la Formule 1. Il a trouvé son nouveau copain qui s'appelle Arnaud Valadon. Donc ils vont rire tous les deux. On parle nouvelle réglementation sur les qualifs. Et ça les fait bien rire, et surtout Jean-Luc.
Tu sais que maintenant, la FIA, dans son immense générosité, a rajouté une minute en Q3. On a droit à 13 minutes au lieu de 12.
Oui, sauf personne ne l'utilise. Hein.
Non. Tu vois, la preuve, ils ont attendu 8 minutes pour sortir. Donc... Enfin, bref.
Ah, on rigole bien. Hein.
Ah, celle-là, elle est énorme. Hein.
J'ai écouté en direct. Je me suis dit, mais ils sont en train de se marrer sur la réglementation.
Alors, après, c'est des blagues de F1. Il faut être le coup, quand même.
Et puis, juste après, nouveau dicton offert par Jean-Luc. Mais c'est un roi des Moscars, Jean-Luc Roy. Celui-là, je ne la connaissais pas, celle-là.
C'est pas grave, il vaut mieux toujours en sourire, hein, des choses comme ça, parce que c'est vraiment des révolutions dans un verre d'eau, là. Mais bon.
Non.
Révolution dans un verre d'eau, ouais, pourquoi pas, hein.
Voilà, Jean-Luc Roy. Et on va cumuler tous ces Oscars un jour, il y en a énormément, Jean-Luc. Sans transition, les valeurs du rugby, les valeurs de l'humilité.
Avalie. Ce côté invulnérable, je sais pas si c'est encore une fois conscient ou inconscient, mais.
Alors, moi, ça va me manquer pendant quelques semaines. Hugo Mola, vous savez, cette séquence à la fin de chaque match, qui parle à ses joueurs sur la pelouse après les matchs. Il a respecté la tradition. Juste après la fin du match, donc, il réunit ses joueurs. Il attend un petit peu. Qu'est-ce qu'il attend? Oh, que la caméra de Canal+ arrive pour capter la séquence, parce qu'il sert aussi Canal+. Et les derniers mots de la saison de Mola. Et au début, c'est intéressant. Il met quand même un taquet à ses joueurs. La première prise de parole après le match, il leur met un petit taquet.
Ce qui est bien, c'est qu'on a encore de la marge avec la seconde mi-temps de merde qu'on fait. Donc on a encore de la marge. Par contre, bravo les mecs, vous êtes exceptionnels. Le club est exceptionnel, l'équipe est exceptionnelle. Et continuons comme ça les mecs. Allez, garde-toi. Bravo les mecs.
Voilà. Hugo Mola. Petit taquet quand même, Vincent, t'as raison, la deuxième mi-temps, il ne faisait pas le fier, Hugo Mola.
Il a vu que ça allait mal tourner, je te dis que ça aurait pu mal tourner. Voilà, c'est tout ce que je dis. Malgré. C'est un grand Toulouse qui arrive à gagner, même quand ça va mal.
Après, il leur dit quand même, il nous le dit, il dit ce qui est génial, c'est qu'on a encore de la marge, tu vois. Toulouse, ils sont quand même sur deux. Hein. Et puis, scène étonnante captée par Canal après la finale, le président de la République, Emmanuel Macron, arrive dans le vestiaire de Toulouse. Il y a un joueur qui crie le cul sec, le cul sec. Vous vous souvenez, il y a un an ou deux, il avait bu une bière dans le vestiaire cul sec. Mais. Au Stade de France, pour des raisons sanitaires, il n'y avait pas du tout d'alcool, donc dans le stade, ni aux abords du stade. Écoutez la petite séquence quand un membre du Stade toulousain lui dit cul-sec, cul-sec, Emmanuel Macron s'étonne de l'absence d'alcool.
Petit cul-sec.
Mais il n'y a pas de bière. Il n'y a pas de bière, les gars.
C'est ta faute, tu dis.
Non, c'est pas moi.
C'est ta faute,
ouais. Ah, ça y est. Si tu veux, c'est ma faute.
Voilà. Donc il y a des joueurs qui lui disent c'est ta faute, c'est pas d'alcool ce soir au Stade de France. Il dit bon, si tu veux, c'est de ma faute. En gros, tout est de ma faute.
La vente d'alcool était interdite à partir de 18h.
Bah ouais, oui, c'est le gouvernement qui a décidé ça.
Bah oui, oui. Préfet.
Oui, enfin, oui, le préfet, il décide pas sans décision du gouvernement.
Sur la séquence, Emmanuel Macron est blasé. Il fait oui, bah, si tu veux que ce soit de ma faute, je suis pas ça prêt. Vas-y, c'est de ma faute.
Non, mais alors, je pense, Sarah, c'est le Premier ministre avec le préfet qui décide ce genre.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est le gouvernement.
Il pensait qu'en le vestiaire, il y avait peut-être une petite bière qui traînait. Ouais, c'était la victoire.
Une petite binouze, quand même.
Il y avait du jus d'orange sur la table. Dans le train retour, je pense qu'il y a
plus aucun respect. Les mecs qui le tutoient, on va lui là.
Je crois que c'est Didier Lacroix, il est à côté de Lacroix. On voit mal l'image, mais Didier Lacroix qui connaît bien, a priori, Emmanuel Macron. Sans transition, événement dans le journal moyen, c'est la star de ma Coupe du Monde.
Yes, he's a Giroud.
Pour moi, c'est l'événement de la Coupe du Monde grâce au journal La Voix du Nord. Le quotidien journal a retrouvé Geoffrey François. Geoffrey François, eh bien, c'est le supporter français qui avait répondu en anglais à une journaliste de quotidien qu'on a beaucoup diffusé dans Moscato Show. Sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour. Elle l'avait piégé. Extrait devenu mythique. Il est de Beuvrage, dans le Nord, à côté de Valenciennes. Extrait, on le diffuse quand même, on a le temps. 13 juin 2017, avant un France-Angleterre extrait mythique.
Who are you?
Je suis français.
But how are you? Can you speak in English?
Thank you very much.
Why are you here tonight?
Très bien. Respect du haut anglais. Adversaire très fort et très respectable sur le terrain.
Why do you think that Giroud is the best French player?
Yes, he's a Giroud.
Last question. Do you know who is the English Prime Minister?
Yes, I am.
Yes, I am. Voilà. Donc, dans ce portrait,
dans ce
portrait, on apprend que vous allez le croiser, Denis et Vincent, puisque ça fait 11 ans qu'ils passent toujours les mêmes vacances au Flot Bleu, à Pilat-sur-Mer, camping de Franck Dubosc du film Camping.
Patrick.
Amoureux de Valenciennes, supporter de Valenciennes à fond, et il raconte le pire dans cette histoire. Il raconte au journal, c'est moi qui suis allé vers les journalistes. Je voulais faire le malin. Au début, il me parle en français, puis après, il m'enquille en anglais, et je pensais que ce serait pas diffusé. J'ai pas capté. Le lendemain, il reçoit plein de SMS avec Quotidien qui diffusait. Joe, t'es une star. Il dit, j'ai regardé le replay. Il regarde le replay de Quotidien. Il dit, comment j'ai pu dire une connerie pareille? Je répondais n'importe quoi. J'étais paniqué. Je savais plus qui j'étais, ce que je faisais. Yes. Il me dit, je vous promets, je savais que c'était Theresa May, la première ministre britannique. Et j'ai répondu bêtement, yes, I am. Et du coup, ce qui se passe, Vincent, il est vraiment supporter des Bleus. Il va au stade régulièrement. Dernier match amical des Bleus à Lille. Il a fait une dizaine de selfies. C'est-à-dire que les gens le reconnaissent avec les réseaux sociaux, avec les multidiffusions. Et il fait des photos comme une star.
Moi, ce que je préfère, c'est la réponse en français. Quoi.
Ah oui, très bien. Avec ce niveau-là, Pierrot, il est prof d'anglais dans un lycée. Là.
Yes, I am. Voilà.
Adversaire très respectable.
Geoffrey François, avant le micro.
Adversaire très respectable.
Alors, attention.
C'est la grande vadrouille.
Tie-break spectaculaire entre Sinner et Kekmanovic. Et on est tout proche du 2-7-1 quand même pour le Serbe. On va y aller avec Eric Salio rapidement avant la première question du Kikadi.
Kikadi, c'est parti. Kikadi. Allez, première question.
Eric est avec nous, non?
Oui. Balle de 7 pour Kekmanovic.
Balle de 7 pour Kekmanovic.
Ouais, il en a sauvé une de manière absolument merveilleuse avec un rallye fabuleux. Ah bon. Et là, donc, c'est balle de 7 pour Kekmanovic.
Et ensuite, la balle de 7, ensuite, première question pour le Serbe.
Ouais, balle de 7 donc pour Kekmanovic pour mener deux manches à une, hein, parce qu'il y a un 7 partout pour ceux qui prennent le train
en marche.
Et donc deuxième balle de service à venir pour Yannick Sinner. Il est pas bien, il peut se retrouver mené deux manches à une, et là on est obligé de regarder les archives. C'est seulement deux mecs qui ont perdu au premier tour, deux tenants du titre qui ont perdu au premier tour l'année suivante. Le dernier, c'était Leighton Yewi. Donc, ce serait un événement considérable. On n'en est pas encore là, mais il doit sauver cette balle de 7 face à Kekmanovic avec un Serbe très agressif. Vas-y, on n'a pas de chance, il prend que des lettres. Alors, je suis désolé, peut-être que vous pouvez faire la question parce qu'il y a lettres sur les services de l'italien.
Alors, là, écoute, va le faire. Donner la priorité au direct. On reste avec toi, Eric.
Allez, ça va,
on va vivre cette balle de 7.
Ça y est, c'est en jeu. Donc, retour moyen de Kekmanovic, qui est quand même dans les cordes, là. Sinner qui essaie de faire la différence. Mais là, le gazon est très long cette année. Ça a beaucoup de mal à avancer. Il a beaucoup de mal à faire la différence, l'Italien. Et Kekmanovic, pour l'instant, tient bien la balle dans le court. Il est à un point, peut-être à une frappe, de mener deux manches à une face au tenant du titre. Il fait mal à l'Italien, qui est dans les cordes, là, qui glisse. Kekmanovic qui monte au filet. Passing, out! Et voilà, 2-7-1. Kekmanovic, on tient peut-être l'exploit de la journée.
Alors, c'est à confirmer encore, mais ça fait 2-7. Donc pour Yannick Sinner, on revient très vite alors pour Kekmanovic, pardon, face à Yannick Sinner, excusez-moi. On revient très vite pour suivre la suite de ce premier tour du tenant du titre et on fera la première question du Kikadi à 17h45 puisque sinon on va trop en retard.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.